Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 36, que le Seigneur nous bénisse et nous accorde la lumière dans sa parole. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Alors Sanchérib, j'essaye de chercher là, ici, je vais la voir. J'en ai plus en français, c'est en allemand, il faut que je regarde. J'avais tout à l'heure sous les yeux. Et puis tout d'un coup, est-ce que le vent m'a tourné, m'a fait un vilain coup? Voilà. À peu près la période de 625 à 606, si vous voulez, il se passe des drames avec ce roi Sanchérib. C'est un roi très puissant, vous savez, il n'a rien envié à la grande Rome qui a existé beaucoup plus tard. C'était une immense ville, Ninive, et qui avait toutes les chances de continuer. Comme tout le monde, hein, on pense toujours ça. Mais on ne sait pas que tout ce qui est basé sur l'orgueil a sa fin. Dieu l'a déjà décrété à un moment donné, dans son dessein. Tout ce qui est bâti sur l'orgueil, le péché, tombe. Et donc, c'est ce qui leur arrivera. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Bon, ce Rabshaké, je vais vous dire, il va arriver tout près des murailles et il va parler en hébreu, la langue du pays. Normalement, quelqu'un qui vient de Ninive parle une autre langue, c'est l'araméen. Et s'il parle l'hébreu, et pour que toute la population entende et que les soldats sur la muraille laissent tomber les armes et lui livrent la ville sans coup férir, c'est parce que, sans doute, c'est un bonhomme qui est un descendant d'un des Juifs des 10 tribus du Nord. Les 10 tribus du Nord ont été déportées, certains, bien sûr, sont peut-être restés fidèles à Dieu, mais d'autres ont collaboré avec leur maître et ont acquis des places importantes, qui les arrangeaient, bien sûr, pour leur famille, leur clan, etc. Et donc, c'est un homme qui probablement a des origines, des ascendants juifs, des 10 tribus du Nord, et qui connaît parfaitement la langue, et qui va vraiment se moquer. Hein? Voici ce que nous allons continuer à lire. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. C'est un endroit que j'ai vu, qui existe. L'aqueduc de l'étang supérieur, vous savez qu'il y a la piscine de Siloué, la piscine de Bethesda. Mais il y en a une qui est plus haute que l'autre, hein, parce que le tunnel fait à peu près 900 mètres. Et donc, pendant tout un temps, il n'y a eu qu'une piscine, et le conduit dans la roche pour prendre la source de cette vallée-là, qui est à droite de Jérusalem. Et pour la protéger, pour la cacher, mais plus tard, Ézéchias a prolongé le tunnel, a fait une deuxième piscine. Donc il y a Bethesda et Siloé. Ce sont des réserves d'eau, évidemment, en cas d'assaut, de conflit. Et le Foulon, c'est, il y a une place où l'eau est basique. On prend de l'argile blanche, on mélange et on met tous les vêtements à base de laine qui sont pleins de crasse, de sueur et tout ça. On les met dedans, on piétine. Et comme l'eau est basique, l'argile est basique aussi, toute la graisse s'en va. On lave, on rince dans l'eau, on rince. Et on met sécher, on a une laine éclatante, évidemment. Soit de la laine qui venait directement du mouton, soit déjà les habits qu'on utilisait. Le foulon, c'est donc quelqu'un qui foule toute la journée. Beau métier, n'est-ce pas? Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shepna, le secrétaire, Joach, Fils d'Asaph, l'archiviste, Rabshaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air, il faut, pour la guerre, de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Donc il est en train de dire, vous ne m'ouvrez pas les portes, vous résistez. Déjà les autres petites villes et tout ça, vous avez résisté, mais je les ai toutes détruites. La population avait fui dans Jérusalem. Mais qu'est-ce que c'est cette confiance-là? En quoi vous mettez votre confiance? Donc il est en train de se moquer, on sait très bien qu'il va s'expliquer après. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, première chose, alliance politique avec l'Égypte. Ça ne t'a servi à rien, de toute façon, l'Égypte, elle va ramasser sa raclée. Pas de chance, ça ne va pas aller comme il veut. Hein. Parce que derrière l'Égypte, il y a l'Éthiopie. Il y a la Nubie, c'est-à-dire toute la partie du Soudan et de la Libye. L'Érythrée et la Somalie, c'est une population noire, mais extrêmement organisée, et qui a aussi des pharaons, qui a une civilisation sophistiquée et des grandes armées. Quand ils s'attaquaient, ils étaient plus d'un million, hein, chaque fois. Hein. Ce n'étaient pas des petits gamins. Hein. Et donc, quand ils vont arriver, la Syrie va replier boutique. Évidemment. Alors, mais ils ne le savent pas encore. Donc ils se moquent, ce ne sont que des paroles en l'air parce que tu es confié dans l'Égypte. Et évidemment, l'Égypte n'était pas de taille à les soutenir. Ça, c'est réellement au niveau politique, oui. Parce qu'ils avaient déjà ramassé des raclées à Kalno, dans le sud de la Turquie, et à Karkemish, sur l'Euphrate. Mais, verset 7, il va plus loin, cet homme, Rabshaké. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. N'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda, à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Bien sûr, pour faire des combattants contre les autres pays. Mais il se moque de cet autel qui est à Jérusalem dans le temple, où les prêtres font des sacrifices et où la foi juive se repose sur la Torah. Enfin, pour ceux qui sont sincères. Comment reprocherais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Un seul chef, donc c'est lui, il se désigne lui-même. Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le. Alors, vous voyez l'utilisation de quelqu'un qui a des racines, probablement d'origine juive, et qui sait très bien par où faire mal. Il parle au nom de l'Éternel, et comme vous êtes des petits, vous voyez bien que l'Éternel est avec nous. Et de toute manière, si lui avait des ancêtres et des racines juives et qu'il était compromis avec les cultes idolâtres, il est tout en même temps. Il est tout en même temps. Il peut se moquer de ceux qui veulent rester uniquement attachés à la Torah et au culte de Jérusalem. Il semble donc être béni, il semble donc, pour lui, dans sa conscience, il semble être dans la volonté de l'Éternel. Il faut faire attention, quand les troupes de Napoléon ont parti envahir toute l'Europe, c'était la même chose. Hein. Quand les troupes de Hitler ont envahi l'Europe, c'était la même chose. Chaque grand envahisseur utilise la foi des dirigeants religieux et des foules pour galvaniser, même s'ils méprisent le vrai Dieu, pour galvaniser, il est dans le mensonge, pour galvaniser et conduire le peuple qui de toute façon mélange tout, ne connaît pas la parole de Dieu convenablement. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que énormément de chrétiens mélangent tout. Je ne lis pas ce texte-là uniquement pour faire de l'histoire. Beaucoup de gens mélangent tout parce qu'ils n'ont pas une lecture assidue de la parole de Dieu et un bon enseignement. Ils n'ont pas été enseignés exactement dans les Écritures. Et ils sont de potentielles victimes pour des imposteurs. Les imposteurs, ils sont à la porte. Ils sont à la porte, les imposteurs. Par la radio, la télévision, Internet et tout, ils peuvent conduire des foules. Hein. Et beaucoup de gens chrétiens, charnels, peuvent être entraînés. Hein. Donc, il faut faire attention que le grand arbre rempli d'oiseaux, donc c'est-à-dire de croyants qui ne sont pas nés de nouveau, et le vieil arbre qui paraît un peu pourri, qui paraît sans puissance, beaucoup vont choisir le grand arbre. Et beaucoup vont se dire, c'est pas la peine de rester avec celui-là. Vous voyez ? Donc il faut une ferme résolution pour être un Christ et dans la parole, et dans la prière. Une ferme résolution pour être dans ce qui a toujours été dans la Bible, par les prophètes, le reste, le petit reste. Alors continuons. Continuons à lire. Ésaïe 36, verset 11. Éliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Ben oui, ils veulent éviter le découragement du peuple et le scandale. Et puis qu'il y en ait, je ne sais pas, 20 ou 30 ou 100, 200 qui ouvrent les portes, sans l'avis des chefs, qui ouvrent les portes des villes. Quand Damas, je vous donne un exemple, quand Damas a été pris par les troupes musulmanes, ils étaient 300-400. Ils attaquaient des villes beaucoup plus puissantes qu'eux. Ils prenaient la nuit. Mais ils avaient la réputation de faire quick-quick. C'était pas de la rigolade. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté de Damas, cette grande ville qui était chrétienne, orthodoxe, qui normalement aurait dû être soutenue par Constantinople, mais Constantinople vivait dans le luxe et les images saintes et l'encens, ils s'en foutaient bien pas mal de l'Orient. Ce qui s'est passé, c'est que du côté ouest, les responsables ont tenu bon, ils se défendaient, mais du côté est de la ville, il y a des responsables de la ville qui ont ouvert les portes. Eux, ils ne voulaient pas la bagarre, ils ont ouvert la porte, et toute la ville de Damas a été prise et est devenue musulmane. Ce qui a permis quelques années après, puisque les capitales du Moyen-Orient, Damas, de rayonner alentour, et puis après de se dire ligne droite vers Jérusalem. Si Damas était pris, on savait que Jérusalem tomberait après. Hein. Et donc, vous voyez la ville, dans la ville, les gens n'ont pas eu la même opinion, la même considération du combat, la même considération vis-à-vis de l'ennemi, et n'ont pas été dirigés par quelqu'un qui aurait pu gagner la confiance de tous et résister. Ils auraient pu résister. Les autres seraient repartis. À Vienne, la ville de Vienne, plus tard, beaucoup plus tard, a résisté. Il y avait 300 000 janissaires à la porte pendant des mois qui attaquaient Vienne. La ville a résisté, ils sont repartis. Autrement, c'était Vienne jusqu'à la mer du Nord, les Pays-Bas et tout. Et le nord de la France, tout l'est de la France qui était pris. La ville, d'un commun accord, a résisté. Là, vous voyez que, je vous rappelle dans l'histoire, que Damas est tombé sans grand problème par des dirigeants divisés. Eh bien, dans ce que veut faire cet homme, Rabshaké, c'est créer la division dans les hommes. Il y a plusieurs portes à la ville. Il suffit qu'une porte s'ouvre, qu'une bande de larbins soit d'accord d'ouvrir, et puis c'est tout. Ou deux, trois portes. Qu'aurait fait le roi, Ézéchias, qui était vieux, qu'aurait fait Ésaïe? C'était fini, c'était réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que un corps divisé est prêt à tomber. Une église qui n'est pas unie dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la relation spirituelle à Christ, ne tiendra jamais pour les dernières années avant le retour de Jésus. Il faut absolument consacrer du temps à la prière, à la parole de Dieu, et je pense que c'est les hommes qui doivent commencer à mettre l'exemple en consacrant une heure tous les jours au matin à ça. Tous les hommes, sans distinction d'âge ou de quoi que ce soit. Quels que soient les motifs, qu'on a du travail ou pas, qu'on ait une mauvaise santé, une heure dans la parole de Dieu, la prière et l'adoration. Et, je pense, venir avant le culte pour prier ensemble à plusieurs, pour que le culte soit un temps d'adoration consacré à Dieu. Que ce ne soit pas accidentel, on arrive tous un petit peu plic-ploc. Il faut que ce soit le moment de la célébration de l'Éternel, ensemble. Sinon, c'est comme l'arbre, il ne résistera pas. Alors, Rabjaké a l'art de mettre de la poisse et l'esprit de division. C'est pour ça qu'il parle dans la langue de ces gens-là, qui sont là, en hébreu. Et le diable s'est parlé à nos cœurs, avec tout ce qu'il faut, pour nous amener à la faiblesse et à la division. C'est pas différent, aujourd'hui. Alors, Ésaïe 36, verset 13. Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. « Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. » Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Aujourd'hui, il est ridicule de croire en Jésus-Christ et dans sa présence vivante et dans sa protection. Pour la plupart. Et si vous vous frottez très fort à tous ces gens-là, vous écoutez Rabjaké. Vous écoutez tout ça, vous êtes comme... Vous écoutez Rabjaké, ça va vous résonner dans la tête tout le temps, et affaiblir votre vie spirituelle jusqu'au point où elle dégringole. Ou elle est déjà dégringolée parfois, sans s'en rendre compte. Les dieux des nations, je continue dans verset 18, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, donc c'est dans le sud de la Turquie, sur l'Euphrate, d'Arpat? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Donc les dix tribus du nord, hein, en 722, déportation, hop, tout fini. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent, ils ne répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. C'est-à-dire, pas de dialogue. Bouchez vos oreilles. Qu'est-ce qui a fait que Ève a chuté quand Satan lui a parlé dans Genèse? Elle l'a entendu, elle lui a répondu, elle a entretenu le dialogue. Adam s'est approché, et il n'a pas réagi, ils sont rentrés dans le dialogue avec l'ennemi. Il faut qu'on analyse chacun de nous qui nous parle, qui conduit nos pensées, qui conduit nos âmes. Et faites attention, il y a déjà la G5 pour supporter, la 5G pour repérer tout le monde, etc. La 6G est en couvaison, elle est en préparation. Là, on influe, on met les pensées. On met les pensées dans les esprits des gens. Alors, c'est pas de la blague tout ça ici. C'est pas pour rien que je prends ce texte. Verset Verset 15, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, chacun de vous, etc. Vous savez bien. Verset 18, qu'Ézéchias ne vous séduise point. Or, c'est lui qui est en train d'essayer de séduire. Alors, nous allons plus loin. Au verset 22, Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, Joach, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, ses vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Donc, Ézéchias qui est vieux, qui est dans sa maison, tout près du temple, est informé par les hommes de confiance. Ils ont déchiré, tellement le blasphème contre Dieu est grand, tellement ils sont outrés, tellement ils veulent se repentir et ne pas entendre ça, quoi. Le vêtement déchiré, c'est le refus du péché. Le refus de se faire camisoler, investir d'une robe de poison, une robe du mal. Alors, chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et allait dans la maison de l'Éternel. Priez. Priez. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et les plus anciens des prêtres, couverts de sacs vers Esaïe, le prophète, fils d'Amoz. Lui dire ainsi par l'Ézéchias. Alors ils vont dire ceci, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Ils sont sur le point d'ouvrir les portes de la ville. Si tu n'interviens pas, si Dieu n'intervient pas, est-ce que tu ne peux pas t'adresser à Dieu pour arrêter ça? Ils sont sur le point d'écouter ça et de faire. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Alors vous voyez ici des gens de confiance du roi qui disent à Isaïe ton Dieu, ton Dieu. Ils ne disent pas notre Dieu. Ils sont déjà comme cet arbre-là. Ils sont déjà sans relation vivante avec Dieu. Ils sont déjà, et ils se rendent compte, qu'il n'y a qu'Esaïe qui a une foi et une relation forte avec le Seigneur. Et ils sont tellement comme ça qu'ils vont vers cet homme qui est en relation. Ils le savent. Quelle misère spirituelle pour dire à Esaïe, ton Dieu, alors qu'ils sont... Ils font le culte ensemble, ils font les prières ensemble, ils sont dans le même peuple, dans la même ville, la ville éternelle de Dieu. N'est-ce pas cela aujourd'hui? Quand quelqu'un me dit, vous prierez pour moi, je me méfie, parce que souvent c'est déjà la vue de l'arbre, là, à droite. Comment une personne peut-elle se remettre en question et revenir au Dieu vivant et s'adresser à lui directement? Comment peut-elle se mettre à genoux dans sa chambre et demander pardon pour sa vie où elle a fait de Dieu un inconnu? Comment peut-elle demander pardon? Elle peut le faire. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Et pourquoi est-ce qu'elle va solliciter Esaïe comme un distributeur automatique de canettes de bière? Alors, il dit ceci à la fin du verset 4, chapitre 37, verset 4, « Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Alors là, pour le reste qui subsiste encore. Là, ils sont conscients. Hein? Nous, aujourd'hui en Occident, on peut dire, c'est une prière valable, c'est un mot valable. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Esaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Donc Esaïe, dans la prière, était déjà au courant de tout ce qui se passait, du combat spirituel, du drame qui se passait. Sans avoir d'internet, de télévision, etc., de smartphone, hein. Par la prière, il savait déjà. Quand ils arrivent, il les attend. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi de la Syrie. Donc, il dit vraiment la parole de Dieu. Ils m'ont outragé. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. La sentence est claire. Rab Jaqué s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie, toutes ces villes-là je les connais, je les ai visitées, hein, Libna, Lachis. Alors le roi d'Assyrie, ça existe. On voit toutes les ruines, hein, tous les sites. Hein. C'est là qu'on voit que la Bible colle avec la géologie et l'histoire et la géographie. Le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il a entendu cela, il envoya ses messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici, tu as appris que ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comment ils les ont détruits et toi tu serais délivré? Les dieux des nations que mon père ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, c'est le nom de la Syrie, tout ça, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Tel Assar. Où sont le roi de Hamad, le roi de Arpad, le roi de la ville de Shepharvaim, Dena et Diva, toutes les régions de Turquie et du Liban? Ézéchias prit la lettre de la main, et la lettre bien sûr de Rab Jaqué, de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Et il ne va pas lire la lettre. Il s'adresse à Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi seul qui es le Dieu, seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Quand vous voyez cette prière, pensez à Jean dans l'Apocalypse au chapitre 4 et 5. Le Dieu, là, sur son trône avec les chérubins. Pensez, dans Ézéchiel, dans Ésaïe, chapitre 6, quand Ésaïe voit l'Éternel sur le trône avec les chérubins. Hein? Ésaïe est un homme, c'est un voyant, il a la connexion avec Dieu. Et il a cette vie intime et profonde avec Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter. Ô Dieu vivant, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, faits de main d'homme. Du bois et de la pierre, ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, après avoir prié, il se tourne vers les délégués. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, dont Rab Jaqué, bien sûr, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, etc. Alors, vous lirez le reste aujourd'hui. Je vous invite à lire tout le chapitre. C'est extrêmement important. Mais, au verset 28, « Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, quand tu es furieux contre moi. » Donc, vous voyez cette parole. On la retrouve un petit peu avec Jésus, le berger, ceux qui rentrent et qui sortent. Et puis, on la voit dans d'autres circonstances. « Je sais tout. » de ce qui se passe sur la terre. Parce que tu es furieux contre moi, que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, comme on faisait aux chevaux, aux taureaux, etc., et mon mort entre tes lèvres. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. » Et alors, verset 32, une grande prophétie, « Car de Jérusalem, il sortira un reste, et d'un montagne de Sion de réchapper. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que, au verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Vous avez une maladie virale? Une maladie virale peut mettre une armée à terre. Hein? Je pense que maintenant, s'il y a des conflits, ça ne sera pas avec des tas de bombes et tout ça. Ça sera tout simplement, on envoie par un avion, par un satellite, et les virus sur une armée, sur un peuple. Le lendemain, ils sont tous couchés à terre. Et c'est pas différent. Vous savez, Napoléon, quand il a voulu envahir l'Espagne, c'était un fou furieux, il voulait envahir tout, hein, lui, comme Hitler. Il est allé dans l'île de Majorque, de Baléares, etc., à Minorque. Et là, les gens, les Espagnols, ont été très, très malins. Ils ont accueilli toute l'armée française, ils ont payé un bon gueuleton et tout le bazar. Ils ont donné à manger, mais à tout casser à tout le monde. Et ils ont tout cuisiné à l'huile de ricin.
Ah non.
Et le lendemain, c'était la gastro-entérite numéro 1, et toute l'armée est repartie en France. Ils en avaient pour 15 jours à se remettre, et c'était fini avec l'Espagne. Les armées ne sont pas si puissantes qu'on pense. Quand vous voyez le texte d'Ézéchiel 38, où plus de 200 millions d'hommes envahissent le nord d'Israël, sous la direction de Gog, la Turquie, et Magog, la Russie, ils sont détruits par des grêlons. Et c'est peut-être une heure, hein, une demi-heure, c'est peut-être 2 heures, peu importe. Tout est tendu. 7 mois pour ramasser tous les morts. C'est mis dans la prophétie. Et d'autre part, on fond toutes les armes pour en faire des houes, des pioches, et que tout le monde quitte les villes et retourne à ça. À ça. Au lieu de faire des armes. Tout ça, c'est dans Ésaïe. Vous pouvez lire. Dans plusieurs prophètes. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le contrôle. Et ce texte, moi, je l'ai pris pour que vous sachiez que Dieu a le contrôle. Regardez Ézéchiel 37, verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Ésaïe. Ensuite, au verset 37, Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, s'en retourna, il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara, donc en Arménie. Et Zaradon, son fils, régna à sa place. Voilà, ça en est fini de Sennacherib. Quick, quick. Hitler dans son fortin, quick, quick. Et n'importe qui y passe. Staline dans ses blocos, il avait 9 chambres pour mettre de la confusion avec les gardiens. Il choisissait toujours une des 9, porte blindée, mur. On ne savait jamais dans laquelle il était. Et pour finir, on ne le voyait pas ressortir. Il a fallu, pendant des jours, casser toutes les portes, tout le bazar, fracasser et tout, mais c'était dur. Pour le retrouver, il avait fait une crise cardiaque. Voilà, ça se termine toujours pour les Sennacherib de la terre, ça se termine toujours comme ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans Ésaïe, chapitre 37, verset 21, il y a des paroles extrêmement intéressantes pour nous. Regardez bien, alors là, c'est au niveau spirituel, pour nous, et au niveau contemporain, pour ce qui va venir. C'est notre arme. Chapitre 37, verset 21. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous preniez le temps. Et les hommes doivent commencer. Tous, 1 heure au matin, prendre la Bible et la parole de Dieu. Le point faible de toutes les églises actuellement, c'est les hommes. Quand c'est fait, pendant 1 an, tous ceux qui l'ont fait et qui ont pris le temps d'arriver un quart d'heure avant le culte pour prier, pour que le culte soit en présence de Christ, dans l'adoration, tous ceux-là, ils peuvent prendre une part au message. Au message. Sinon, on ne prend pas la parole de Dieu comme ça, et puis je vais sortir quelque chose qui m'est venu à cœur, c'est mon expérience. Pas possible. On ne va pas jouer avec ça, parce que les histoires de la Bible, ce qui s'est passé pour Israël, l'arbre mort, c'est parce qu'on a bâclé la relation avec Dieu. Mais regardez bien, Dieu, lui, a dit, au verset 21, « J'ai entendu ». Est-ce que nous avons le désir que Dieu nous entende? Eh bien, il faut se mettre dans la prière et l'adoration régulière tous les jours. Comme Ésaïe. Pourquoi est-ce que tout le monde va vers Ésaïe au moment où ça va mal? Ben parce que lui a eu cette discipline, cet amour, mais aussi cette discipline de le faire. Il n'était pas fait autrement que nous. Il avait deux pieds, deux mains, tout le reste. Hein? Alors, au verset 23-24, là je suis au niveau spirituel et au niveau pratique. Qui as-tu insulté ou outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Donc j'ai remarqué qu'il y a trois verbes. Insulter, élever la voix, porter les yeux contre Dieu. Est-ce que c'est pas ça dans notre société? Pour beaucoup. Mais avec le coronavirus, il y en a de plus en plus sur le site. Hein. Je continue les messages. Hein. J'ai jamais pensé que je devrais continuer les messages en semaine. Mais est-ce que ça va aboutir à une relation vivante et personnelle avec Dieu et forte? Je n'en sais rien. Il va de la responsabilité de chacun. Moi, j'essaye de prendre la mienne, en tout cas, j'essaye. Donc, les trois verbes, insulter le Seigneur, verset 23-24. Élever la voix contre Dieu, porter les yeux en haut sur le sein d'Israël. Regardons le verset 29. Le verset 29. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Qu'est-ce que c'est de ça? Il y a une fureur, une arrogance contre Dieu qui s'est développée en Europe et dans le monde occidental, mais par l'intermédiaire de certains ministres, de certains chefs d'État, et dans Internet, dans les films et tout ça. Mais quand vous regardez Apocalypse, il est mis la même chose, que la grande Babylone a la fureur de la débauche, elle a la haine de Dieu. Malgré les épreuves qui viennent sur la terre, ils ne se repentent pas. Et donc c'est ça. Tu es furieux contre moi, ton arrogance est montée à mes oreilles. Et que fait Dieu? Il va conduire cela comme un simple animal. Toute civilisation arrogante contre Dieu, un jour est conduite. Comme un mouton, comme un bœuf ou comme un cheval. Le verset 26. J'ai permis qu'elle s'accomplisse et que tu réduises de villes fortes en monceaux des ruines. J'ai préparé ces choses de loin. Je les ai résolues dès les temps anciens. Donc, ce qui est arrivé à Rabshakeh à Sennacherib, c'est simplement avec la permission de Dieu. C'est simplement parce que Dieu l'a permis. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. Alors, tout ce qui peut vous étonner, tout ce qui peut vous rendre compte, posez-vous la question dans la prière, et c'est une base, la prière, la lecture de la parole régulière, c'est une base. Et à la longue, vous saurez ce que Dieu a permis, en attendant qu'il aille conduire après par le mort, par les narines avec l'anneau, il l'a permis pour un certain temps à tous les orgueilleux, à tous les impurs, à tous les débauchés, à tous les arrogants. Il l'a permis. Il le permet. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire s'il ne le permet pas. C'est ça qui est mis. C'est ça qui est dit. Moi, j'ai souvent des visites, des contacts, et c'est souvent... cette semaine-ci, j'ai eu plusieurs personnes visiblement dans un état de détraquage énorme. n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de prier, bien sûr, et de demander à Dieu d'intervenir, de dispenser la parole de Dieu fidèlement, humblement, et puis de demander un miracle à Dieu. Et si réellement les personnes se rendent compte qu'il est temps de changer, il est temps de se repentir, alors ils ne seront pas conduits avec un mort, avec une bride, avec un anneau. Hein? Ils seront affranchis et libérés, libérés en Christ. Et j'espère cela pour les quelques-uns, cette semaine-ci, il y en a plusieurs, mais ceux qui vont sur le site aussi, j'espère cela. C'est Dieu qui décide. Parce que vous voyez, c'est lui qui a permis. J'ai préparé ces choses de juin, je les ai résolues dans les temps anciens. Donc, ce qui nous arrive, ce qui arrive dans la société, dans le monde, Dieu sait très bien, dès le moment où ça a commencé, il l'a permis. Ça se développe et il le permet. À un moment donné, il l'arrête, il ne le permet plus. Et qui reste? Celui qui a la relation solide avec le Dieu vivant. Et est-ce que Ésaïe aurait une relation avec le Dieu vivant? Est-ce que le Dieu vivant? Regardez, 37, verset 4. Insulté au Dieu vivant. Le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. C'est pas le Dieu des autres, le Dieu qui ne sert à rien, qui fantasmique. Et ce Dieu vivant est en connexion, en communication avec Ésaïe. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus a promis à tous ceux qui croient en lui, qui se sont repentis de leurs péchés, leur donnant le Saint-Esprit? Mon Saint-Esprit vous conduira dans la vérité, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Donc le Dieu vivant est là pour le chrétien, le Dieu vivant est là, il est promis à ceux qui acceptent d'être conduits. Si nous refusons le Dieu vivant qui nous conduit, le Saint-Esprit, alors c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de solution, nous sommes séparés de Dieu. C'est nous-mêmes qui engendrons notre mort spirituelle. Quand quelqu'un a 94 ans, comme maman, et qu'elle ne veut plus manger. Elle ne veut plus manger. Elle ne mange plus. Elle va à sa mort. Quand nous restons à côté, que nous lui donnons quelque chose et qu'on insiste, ou qu'on va acheter quelque chose à la pharmacie qui a l'air meilleur et qu'elle le mange, on veut continuer à la garder en vie. Mais certaines personnes, à un moment donné, ont le désir de la mort. Et leurs yeux, on le voit, ils sont tristes, ils se traînent. Au lieu de briller, de regarder vers le ciel, vers le Dieu vivant. Il faut prier pour beaucoup de personnes aujourd'hui, qui vont finir un petit peu comme ça là, dont les yeux s'éteignent, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de gloire de Dieu en eux. Et pourtant, nous sommes là, prenons soin d'elles et nous donnons. En plus, nous chantons et prions, et on dirait que rien n'y fait. Puisse Dieu agir, on dirait que rien n'y fait. Mais le chrétien est là pour donner. Le chrétien est là pour donner aux autres la nourriture divine, la parole, et par la prière aussi. Et le chrétien est là pour insister. Toi qui es mort, relève-toi d'entre les morts. Toi qui t'es endormi, réveille-toi. Reviens au Dieu vivant, à Jésus. C'est très important, chers amis, il faut faire attention, parce que la chair est trompeuse. Notre chair est trompeuse. Donc au chapitre 39, si vous lisez ce chapitre 39, vous allez voir que Ézéchias, après avoir une grande bénédiction, de voir les ennemis repartir, eh bien, il est tout content, il est guilloré. Oh, il est peinard. On dirait qu'il n'a pas amélioré sa relation avec Dieu. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il va faire une gaffe monumentale. Et je vais vous en raconter une monumentale de moi, après, pour vous dire que c'est contemporain. Oui. Et que, attention à nous, à chacun de nous, hein. Je préfère me viser, moi, que d'enfoncer quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, sachant que Sennacherib avait ramassé la raclée, ils ont mal tourné, il y a au sud, très, très loin, 400-500 km, un petit état comme le Grand-Duché de Luxembourg, qui est Babylone, qui n'est pas encore très très puissant. Et notre gaillard là, qui dirige cela, qui dirige ce pays, il n'est pas stupide. Il est curieux. Et au chapitre 39, Mérodoc Baladan, fils de Baladan, peut-être qu'il se baladait souvent, roi de Babylone, envoya une lettre à un président Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias eut de la joie, il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans les trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias leur fit voir dans sa maison, dans tous ses domaines. Eh bien, il a donné le ticket d'entrée pour Babylone. Ils sont venus ramasser tout.
Putain.
Ézéchias, dans la joie sentimentale d'avoir échappé à Sennacherib, n'a rien compris. Parce qu'il n'a pas pris la bonne position spirituelle avec Dieu, qui est la sagesse et la prudence, et surtout se confier à l'Éternel et chercher sa volonté. En sachant que partout, alentour, même si les ennemis visibles ne sont plus alentour de Jérusalem, les ennemis invisibles sont toujours là, autour du peuple d'Israël et des chrétiens. Alors, maintenant, je vous donne un cas d'un affreux Josho qui s'est fait avoir. C'est moi. J'étais prêtre ouvrier et sur le même mois, j'avais un chantier à Mussy-la-Ville. J'habitais Champs de Mel. Plein de foie, plein de fous, plein de monde, plein à la maison, des chants, des groupes et tout ça, et même biblique et tout. Oh là 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 là, Marie-Hélène a connu ça. Je n'arrêtais pas. Alors, pratiquement, j'avais premier échec dans un tournant, une petite route communale avec buissons, pas un bus au milieu. Boum! Je me trouve envoyé, une nouvelle voiture, dans un poteau de béton. Voiture, nouvelle voiture, 6 mois, à moule.
De tes parents?
Et j'avais rien.
De tes parents, la voiture?
De mes parents, que j'avais emprunté ce jour-là, la mienne était au garage. Et, vous savez ce qui s'est fait dans mon cœur? Je me suis réjoui de m'en être sorti et que je n'avais pas eu besoin de Dieu. Je m'en rappelle très bien. J'ai dû le confesser à Dieu. Je suis quand même un mec, je m'en suis sorti, j'ai pas eu la trouille, j'ai rien eu du tout. Purée, ça ne marche la mécanique. Bon, quand on a 37-38 ans et que les hormones sont là, hein? Ah, madre mia, on s'y croit, hein? Vous savez, c'est comme les actrices de cinéma, la plus belle, une gastro-entérite, le lendemain, elle est vilaine, hein? Bon. On se fait des illusions, mais magnifiques, hein? Fantastique. Alors, deuxième accident. Je suis dans une tranchée, et regardez la hauteur de l'arbre, là, ici, les petits pommiers. Le haut de la tranchée était là. Moi, j'étais au fond, j'égalisais le béton, les tuyaux arrivaient, je mettais le niveau, je réglais à la baramine. Et hop, tout d'un coup, une voix qui arrive. Jean, je vous donne l'ordre de sortir. J'avais bricolé une échelle, parce que le patron... J'avais des belles voitures, j'étais pas assez riche pour me donner une bonne échelle. Alors, j'avais bricolé une échelle avec des bouts de bois. Je grimpe, il me restait ça, pont rétablissement, parce qu'à cet âge-là, on est comme un lapin qui saute, hein. Boum! Et puis je recule. Vous voyez les pieds, là, de notre ami Christian? Cette distance-là. Je vois des fissures, là. Et de l'autre côté, où je recule. Je vois des fissures. Puis, boum! Tout s'écroule. Tout le bazar. Sur 100 mètres de long, la tranchée. La grue, elle a fallu attendre longtemps avant qu'elle se remette dessus, c'était mou, pour retirer tout ça. Et... Alors, ce jeune chef de chantier, qui avait 26 ans, quelques années de moins que moi, et dont les vieux ouvriers se moquaient, parce que c'était un théoricien, quoi, il n'avait pas la pratique, et ils s'en moquaient, pour la plupart, hein. Tous les vieux durs de durs, qu'est-ce qu'on a besoin de celui-là? On connaît mieux que lui, hein. Alors, Ce gars-là, qui est venu là, qui a crié au-dessus de la tranchée, sur un ton de voix, il m'a dit, je ne comprends pas, Jean, comment vous êtes sorti si vite de la tranchée. Pourquoi est-ce que vous avez répondu aussi vite à mon appel? Et je lui ai dit, je savais que ce n'était pas vous. Au ton de la voix, je savais que ce n'était pas vous. Et il m'a dit, vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Mais vous voyez le grand noyer là-bas? Plus loin que ça, il y avait des autres équipes qui travaillaient. Un lotissement qu'on appelle la canutière. J'ai jamais vu de canard, mais enfin, c'est comme ça. Et pratiquement, il était là-bas, il allait tout près d'une équipe. Tout d'un coup, il m'a dit, vous savez, j'avais une force qui m'a paralysé, qui m'a tourné la tête et qui m'a fait penser, Jean. J'ai couru, j'ai crié. Alors moi, j'ai eu une infinie reconnaissance, une reconnaissance terrible. Malheureusement, pas à Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai échappé à la mort? Encore deux fois après. Deux autres trucs. Très, très vache. Mais Dieu a un plan pour moi. Mais je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi? Regardez l'abruti qui avait ouvert sa Bible, qui avait fait la théologie et la philosophie au séminaire, qui avait cru en Christ, qui avait lu la Bible à 16 ans, qui avait rencontré, fait des expériences avec le Seigneur, l'ignare qui s'est confié dans sa chair. Alors, j'ai eu une immense reconnaissance éternelle pour cet homme. Et cet homme qui avait de grands ennuis financiers avait inventé une petite machine à eau, dont voici le prototype là-bas derrière. J'ai travaillé là-dessus. Quand ce prototype a été fait, il est venu me trouver devant la pelouse là. Il m'a dit, Jean, j'ai trouvé trois financiers, j'ai été au ministère de l'aide au développement, je vais avoir 150 000 euros, mais tu n'auras rien. Je me suis arrangé avec les trois, on va prendre des laboratoires et on va étudier tout, et puis on ira au Sénégal avec la machine. Je viens te demander pardon, c'est tellement je suis dans la misère, j'ai tellement d'ennuis, je viens te demander pardon pour ce que je vais te faire. Alors, je tire mon chapeau. Alors, je suis revenu au Seigneur. À l'instant même, j'ai dit, ce n'est rien, je te pardonne. Si tu veux me faire du mal, fais-le. C'est que Dieu le permet. Mais il m'en relèvera après. Parce que j'ai péché. Et il a fait tout ce qu'il voulait. Et moi, j'ai eu des ennuis d'argent pendant 13 années. Dieu m'a montré tout de même, en prenant mon Benoît dans les bras, en allant à des boîtes rabais, en priant, j'ai dit, Seigneur, on va tout vendre, il n'y aura plus d'entreprise. Que ceux que j'ai aidés viennent m'aider. Et dans les 2-3 semaines, plusieurs personnes ont amené de l'argent en disant, on ne veut pas de papier, tu ne nous le rendras pas. Tu nous as aidés, on voit bien ta situation. 96 000 euros. J'ai travaillé pour le reste, je suis retombé dans le péché de la chair. Le trou a bouché, 54 000 euros. J'ai travaillé comme un fou par tous les temps, dehors. Sans m'adresser à Dieu, sans me mettre à genoux. Sans me mettre à genoux, d'abord, et demander à Dieu de conduire les choses. Comme j'avais fait la première fois en prenant mon fils en allant dans les bois. Sans encore lui dire merci. Je suis revenu dans mon péché de la chair, de la vanité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement travaillé sous la pluie, par tous les mauvais temps, que j'ai une bronchite. Médicaments, bronchite. Et un jour, pneumonie, dans la fenêtre là-bas, dans la chambre là-bas. Fini de travailler dans le bâtiment. Fini, terminé. Tout objet froid, une barre au cœur. Tout courant d'air, une barre au cœur. Parfois, je me couchais à terre, tout seul, tellement j'avais mal là, en disant, Seigneur, épargne-moi de mourir. J'ai une femme et des enfants, épargne-moi. Les épreuves que Dieu permet sont des épreuves qui vous montrent, et moi je l'ai compris, qu'il est le directeur, c'est pas moi. Il a bien fallu qu'il casse ce péché, alors que j'avais la foi, je n'étais pas né de nouveau. Je ne vivais pas selon l'esprit, je vivais dans la chair. Est-ce qu'il faut que nous passions tous par ce chemin de brisement, ce chemin où C'est le Seigneur qui est directeur de notre vie. Faisons la part entre la différence. Regardez bien Ézéchias, qui a eu la grande grâce de voir sa ville épargnée, la grande grâce de voir cet ennemi cassé, mais cassé, on peut dire cassé. L'armée est faite, et lui tué par ses fils. Et il se confie dans ses richesses, ses trésors, et il va montrer, regarde tout ce que j'ai. Et l'autre, le diable, revient, et ils sont, cette fois-ci, ils sont venus en 605, ils ont pris la ville. 603, 598, tout a été rasé et pris. Faut-il? Le peuple juif a toujours été dans la chair, et Dieu a permis qu'il soit brisé chaque fois, pour se relever après. Un jour pour être à Christ. De la même façon, moi j'ai connu ça. Brisé plusieurs fois pour revenir à Christ. Être à Christ. Si je n'avais pas été brisé, je ne sais pas, je n'aurais pas de motif de faire 3 enseignements par semaine et de prêcher aujourd'hui. Je n'aurais pas de motif. En étant brisé, je sais où est le Seigneur. Le Seigneur a des choses à dire à son peuple. Pour que le peuple ne soit pas cet arbre-là, mais qu'il soit plus grand que l'autre, plus grand que le monde, plus grand que celui qui dirige le monde. Le peuple de Dieu doit être glorieux. Il doit vivre. Il doit vivre avec le Dieu vivant que Jésus nous a révélé. Prions. Seigneur Père chéri, oui. Comme dit Paul, Seigneur, tu as sauvé tous les pécheurs par ton sang à la croix, dont je suis le premier. Et moi, je vais dire, j'en ai été un dur longtemps. Il a fallu briser, et il faudra encore briser, cette vieille nature d'Adam qui revient toujours, cette chair malhonnête qui ne veut pas vivre avec toi, mais qui veut vivre par soi-même. Et qui s'incline, qui adore le monde. Mais je te remercie, Seigneur, parce que dans toutes ces multitudes d'épreuves, tu as forgé un instrument pour toi. Je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, dans notre assemblée, chacun qui est là soit forgé et devienne un instrument de ta gloire, de ta parole. Qu'il devienne, Seigneur, à ton service, qu'il n'écoute pas les rapchakés. Qui n'écoutent pas le roi Baladan, qui admire leur prouesse et qui après va les voler. Seigneur, je te prie vraiment que nous soyons ton peuple de Dieu, tes brebis. Apprends-nous à écouter ta voix, à marcher avec toi, avec Jésus, notre berger. Amen. Mm-hmm. Amen.